Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Alors c'est l'événement aujourd'hui puisque Radio Monaco accueille Jungle Fight, la première émission de radio de lutte contre le sida, les amis. Avec tout le monde, ils sont déjà tous là, hein. Docteur Bruno Taillant, vice-président de Fight Health. Salut Bruno, ça va? T'es en forme?
Bonjour Malher, tout va bien.
Impeccable, tout va bien. Hervé Esbach, Hervé, salut Hervé, bonjour, coordinateur Malher, à Fight Health Monaco. Ouais. Et Franck Herman.
Bonjour Malher, bonjour à tous.
T'es propre, tout ça, oui. Journaliste à Radio Monaco, exceptionnel. Et bien sûr, ils sont avec nous avec toujours plus de moustaches pour les garçons et de boutons pour les filles. J'ai parlé, bien sûr, des élèves du lycée technique hôtelier de Monaco. Ouais. Et je vous rappelle que cette émission est présidée et animée par la princesse Stéphanie. Ouais. Bonsoir Altesse, bonsoir Stéphanie, ça va?
Oui, très bien, merci.
Impeccable, tout va bien. On est en pleine forme ce soir, il y a deux heures, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et on va démarrer avec toi, mon cher Franck Herman. Alors, c'est une nouvelle application sur un smartphone, là.
Oui, effectivement, et on peut en parler avec Hervé, par exemple. Cette application, avec le docteur Taillant, cette application smartphone, on rajoute un petit bout de plastique, on se fait une petite piqûre avec cet applicateur, et ouais. Puis, en 15 minutes, eh bien, ça y est, c'est un résultat, un test.
C'est-à-dire que...
En plus, être utilisable pour des IST ou d'autres infections.
Oula. Donc,
à vérifier.
Oh, Stéphanie est extrêmement dubitative. Comment ça peut marcher? C'est un bout de plastique?
Oui, avec une aiguille. Hein.
Avec une aiguille.
On met sa petite goutte de sang, une goutte de sang, et en un quart d'heure, voilà.
Les autotests, c'est à la mode. C'est à la mode pour le diabète. C'est à la mode. Il y a même maintenant des autotests de fertilité pour les hommes. Bon, c'est un dongle qu'on rajoute sur l'iPhone avec une goutte de sang, comme un test diabétique. On va pouvoir vérifier, un pour le VIH, deux pour la syphilis, c'est tout. Hein. Pour l'instant, ce sont les deux seules infections sexuellement transmissibles.
Ouais.
C'est un test dont la valeur prédictive négative est très importante, puisqu'elle est de l'ordre de 99,1%.
Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est pas gadget, là.
Et c'est un test dont la valeur prédictive positive est plus faible quand même, est de l'ordre de 91%, donc il nécessite toujours, comme on l'a toujours dit dans les autotests, une confirmation. Par contre, ça pose toujours le problème des autotests, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun encadrement par rapport aux résultats,
ouais.
Et donc il y a toujours des risques par rapport à l'interprétation. Mais techniquement, c'est quelque chose qui est totalement fiable et c'est quelque chose dont le résultat est significatif.
Alors, comme j'expliquais il y a quelques instants, ça coûterait 30 euros en pharmacie quand ça sera mis en vente. Voilà.
Bon, le smartphone est toujours à 800 euros. Hein.
Oui, ouais. Ça c'est autre chose.
Mais la capote à 1 euro, bon, je crois
voilà. Sauf au Venezuela.
Bon, avec les capotes, ça passe pas bien ici. Hein. On a essayé de téléphoner. Mais ça passe pas bien. Voilà. Et donc, il y a Hervé. Hervé, tu veux rajouter quelque chose là?
Non, c'est une avancée. C'est comme toujours les autotests, ce que l'on a dit, c'est que quand le résultat est là, si ouais. Jamais c'est un résultat séropositif, si la personne est seule,
et
c'est
ben voilà.
Important qu'elle soit accompagnée. Après, ça peut permettre justement à des personnes qui n'osent pas aller ailleurs de peut-être faire le test.
Il faut quand même dire que les autotests seront disponibles en France, normalement, en juillet 2015, des autotests salivaires. Et voilà, alors, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire qu'on dit que les autotests ont un intérêt chez les gens qui ne se font pas dépister, chez les gens qui ne vont pas dans les centres de dépistage, chez les gens qui ne vont pas consulter. Mais il y a quand même un manque dans ces autotests, et le manque, c'est ce qu'on appelle le counseling, c'est-à-dire la discussion. Se faire un autotest tous les 3 mois, il y a quand même une faillite quelque part dans la prévention, dans l'éducation. Et donc, ça a un intérêt complémentaire par rapport à tout l'arsenal de dépistage qui existe à l'heure actuelle.
Mais en même temps, quand il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se faire dépister, c'est peut-être pas plus mal, non?
Oui, mais bon, s'ils se font l'autotest à la maison, ils se disent, voilà, je continue à pas me protéger, puis je ferai un test pour voir si ça va, quoi. Donc, c'est pas non plus, comme dit le docteur, faut un encadrement. Il y a des gens qui sont...
Malheur, il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, dans les causes de décès, bon, il y a le cancer, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a les hépatites, mais il y a le suicide aussi. Et donc, apprendre qu'on est séropositif, seul dans sa chambre ou dans sa salle de bain... On peut mal le vivre. Donc, je sais pas.
Et comme toujours, ça n'enseigne pas sur le mois précédent. C'est-à-dire que s'il y a eu des prises de risque le mois précédent, on ne saura pas si la personne, on ne peut pas.
Oui, on ne sait pas si la personne après va aller se faire traiter.
Il va rien dire.
Et va prendre la disposition pour se protéger et protéger les autres et être mise sous traitement. Parce qu'après, cette personne-là ne veut pas aller se faire dépister, mais bon, à un moment, il va falloir aller voir un médecin pour dire qu'on est séropositif et demander un traitement. C'est ambigu, c'est vrai que c'est une avancée extraordinaire, mais c'est pas non plus la solution infaillible.
Venez au Test in the City.
Voilà, c'est beaucoup mieux.
Comme j'ai fait, moi.
Très bien. Et, ouais. Et que tu peux revenir bientôt.
Attends un peu.
Puisque tu as repris des risques. Voilà.
Bon, comment ça? C'est pas,
ça, ben, ça y est. Il aimerait bien.
Non, parce il revient de vacances, il est parti en vacances.
Ah, bah oui. Voilà, il va le dire. Oui, j'étais pas loin d'ici. Voilà. Ouais. Mais tout. Mais ceci dit, c'était très discret comme test, hein. Il y avait France 2, France 3,
Et tu n'as pas été vu, tu as un peu parlé avec le souverain, donc.
Oui, le souverain. Le prince Albert est venu me voir et tout ça. Il était très gentil et tout. Je lui ai dit que j'avais de la myxomatose et c'est tout. Mais que tout allait bien. Donc ça s'est bien passé, tu vois.
Et c'est lui qui t'a recommandé de faire le test.
Oui, exactement. Donc c'est vrai, c'est vrai.
Donc tu n'as pas eu le choix.
Une bonne personne. Il faut le voir plus souvent. C'est très bien. Tiens, Alison est là. Alison du lycée technique hôtelier. C'est la première fois que tu viens chez nous, Alison.
Oui.
Ça va?
Ça va, Yvon.
Ben oui. Elle est pétrifiée, là.
Ben non, elle est.
Elle m'a dit tout à l'heure, elles étaient toutes les trois. Je discutais avec elles. Elles m'ont dit qu'elles ont vu toutes les trois 50 nuances de gris. Ah eh, ouais, ouais. Pareil que c'est un film de filles et tout ça. Et tu m'as dit c'était un peu trop trash. Voilà, c'est ce que tu m'as dit. Hein.
C'est ça.
Eh ben voilà.
Alors, tu veux parler du film?
Non, j'ai une question à vous poser par rapport au rapport sexuel.
Eh ben voilà, et là, on va vous laisser. Hein.
Là, tu peux la poser à Malère aussi.
Non, mais c'est pas ce que c'est, donc j'ai oublié.
Dis donc.
Vas-y, Alison.
Vas-y, Alison.
Quel est l'âge de la majorité sexuelle?
Ouf.
Il y a une demi-heure.
À Monaco en et en France.
Alors, comme souvent on ne le sait pas, et je regarde Zaza parce que nous avons fait une formation pour les déjeuners branchés en début de semaine, donc nous avons révisé nos plaquettes. Donc la majorité sexuelle à Monaco est à 16 ans.
Bah comme en France?
Non, en France elle est à 15 ans.
Ah, d'accord.
Donc c'est une petite, une légère différence, mais qui est quand même à connaître. Donc merci d'avoir posé cette question, Alison.
Légère différence qui peut te valoir 3 ans de tôle, Malère.
Oui. Voilà, voilà. Alors lui, je l'attendais, si on était sûr. Voilà, c'est au côté Jean-Luc Lahaye. Il est terrible. Alison, ne les écoute pas.
D'accord.
Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
J'ai une question à poser au docteur. C'est pour savoir à quoi sont dues les pertes blanches et est-ce que ça fait mal? Non, est-ce que c'est normal? Pardon, excusez-moi.
Mais les deux peuvent être opposés. Hein.
Oui, les deux peuvent être ensemble. On avait dit avec Malher dans de nombreuses émissions,
oui.
Ça coule, ça gratte, ça brûle.
Et ben voilà.
Et chaque fois qu'il y a une symptomatologie anormale au niveau des organes génitaux, au niveau vaginal chez la femme, il faut consulter, d'autant plus qu'on a pris un risque, c'est-à-dire qu'on a eu un rapport sexuel non protégé. Dieu merci, l'infection VIH n'est pas l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Il y a beaucoup d'autres infections, comme la gonococcie, comme les chlamydiés, comme les hépatites, comme l'herpès. Et effectivement, dès qu'il se passe quelque chose d'anormal, il faut consulter. Mais il faut surtout consulter, même s'il ne se passe rien, à partir du moment où on a eu une conduite à risque. À partir du moment où on a eu un rapport non protégé, ça peut arriver, une soirée alcoolisée, une soirée avec où on a fait la fête, il faut penser, aller consulter, et on parlait tout à l'heure des autotests, mais rien ne vaut une consultation médicale, discuter avec son médecin, qui justifiera ou non pas un prélèvement et des tests. Il faut savoir qu'à votre âge, certaines infections peuvent passer inaperçues, comme les chlamydiés par exemple, et ça peut se révéler beaucoup plus tard par une stérilité. Donc c'est important de consulter, c'est important de dépister, c'est important de traiter éventuellement. Donc il ne faut pas attendre les symptômes, il faut prévenir les symptômes.
D'accord.
Mais il peut y avoir des pertes blanches sans forcément être une...
Oui, il peut y avoir des pertes blanches physiologiques d'origine hormonale, estrogénique ou autre. Mais là, vous avez des pertes blanches et ça brûle, ça fait mal.
Ouais.
Normalement...
Non.
Non.
Est-ce que c'est normal? En fait, elle s'est trompée.
Ah oui, voilà, c'est
pour ça que ça oriente la réponse du médecin.
Non, des pertes blanches peuvent être tout à fait normales chez une jeune fille, il n'y a aucun problème.
D'accord. Et est-ce qu'on saigne toujours lors du premier rapport sexuel et est-ce que ça fait mal?
Alors, c'est une spécialiste, hein.
Alors,
Hervé.
Non, ça ne fait pas forcément mal. Plus la jeune fille est en confiance et plus elle va être détendue, plus ce qui peut être inquiétant chez une jeune fille, c'est la rupture de l'hymen. Enfin, d'ailleurs, c'est pas rupture vraiment, c'est le passage au niveau de l'hymen. Si la jeune fille est bien détendue et qu'elle est en confiance avec son partenaire et que son partenaire...
Être détendue la première fois, Hervé, pas évident.
Ça peut. Justement, si le partenaire, tu l'étais peut-être pas assez, toi, confiant pour détendre tes partenaires.
Oh non,
pour
moi, j'ai détendu fois.
Donc, ça passe
trop vite.
En tout cas, les premières fois peuvent ne pas être douloureuses. Et il peut y avoir un saignement, effectivement, lorsqu'il y a le passage, enfin la rupture de l'hymen. Mais des fois, l'hymen est rompu avant le premier rapport sexuel. Donc, il y a des garçons qui pensent que leur copine n'est plus vierge, ce qui est faux. C'est que simplement, par exemple, du sport, faire du cheval, des activités sportives peuvent certaines fois mettre des tampons, effectivement, peuvent déjà faire le passage au niveau de l'hymen.
D'accord.
Voilà, Alison, mais dis donc, on a commencé fort, ça. Hein,
ça va?
Ça va?
C'est bon, oui.
Tiens, Stéphanie, je voulais vous demander quand même, en 2014, on a fêté les 10 ans de Fightheads. Comment vous faites, Stéphanie, pour garder le cap, la pêche et toujours cette motivation?
Ça.
Alors là.
Bah, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire.
Oui.
Je crois que c'est ça, surtout. Et il faut surtout jamais baisser les bras dans une telle cause, quoi. Je sais pas exactement. C'est pour garder tout le monde à Fightheads bien occupé.
Pour les faire bosser.
Ça, l'énergie sinon, de la princesse, elle nous garde bien occupés. Hein.
Non, mais je crois que dans une telle cause comme le VIH, qui est un peu oublié de tous et qui est un peu mise de côté de partout, on en parle, mais alors doucement.
C'est ça, oui.
On n'en parle pas assez. Donc je pense qu'il faut avoir de l'énergie pour continuer à y croire et croire qu'on peut essayer de changer les choses, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est vrai que moi, mon cheval de bataille, ça a toujours été la discrimination et ça le sera toujours parce que ça existe. Les avancées médicales, bon, ça c'est pas de mon domaine et c'est génial qu'on avance, mais il faut avancer bien et il faut écouter, je sais pas, de laisser plus de place aux associations justement pour aller vers les gens, pour leur parler, leur expliquer les choses, pas juste balancer des informations tout le temps sur les avancées au niveau recherche, au niveau médical. Je pense qu'il faut expliquer les choses. Parce que le grand public ne peut pas forcément comprendre exactement. Et on a vu ce problème-là aussi avec l'arrivée des trithérapies. Ça a été la catastrophe, on n'en a plus parlé. Donc voilà, moi, ce qui motive, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. Et il y en aura toujours. Et malheureusement, nous, à Fightheads, il y aura toujours des séropositifs dont il faudra qu'on s'occupe. Et
oui. Quand vous prenez la parole, vous vous adressez à tout le monde. Et par rapport aux discriminations, c'est nous tous qui pouvons y faire quelque chose. Comme vous dites, par rapport à la médecine, on fait confiance aux chercheurs. Nous, la personne lambda, on ne peut rien faire. Par contre, éviter de faire des discriminations, là, on est tous concernés.
On peut tous faire.
Et se protéger aussi.
Aussi.
Alors voilà, c'est très important. Est avec nous Nicolas Ritter, directeur de l'association PILS à l'île Maurice, prévention, information, lutte contre le sida. Salut Nicolas.
Bonsoir Malher.
Impeccable, le son est parfait. Il est 20h15 là-bas, hein?
Tout à fait. Bonsoir Princesse Stéphanie.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir plateau.
Voilà.
Bonsoir, bientôt.
Dis-moi Nicolas, l'association a été créée en 96. Avant 96, il n'y avait absolument rien concernant le sida à l'île Maurice. Hein.
Il y avait rien et puis il y avait surtout beaucoup de discrimination dont vous venez de parler, des malades cachés, des malades qui mouraient seuls, isolés, et un gouvernement, enfin en tout cas des médecins qui dans un déni hein, presque de la maladie, juste au moment où arrivent les thérapies efficaces, en tout cas 96, c'est un tournant.
T'as commencé, ouais.
C'est pour ça que PILS a choisi ce nom de PILS.
Est-ce que vous pouvez vous déplacer, Nicolas? On vous entend pas bien, hein?
D'accord. Est-ce que ça va mieux?
Voilà, ça va mieux. Près de la fenêtre. Je sais pas s'il y a des fenêtres là-bas.
Ouvertes, oh, oui, parce qu'il fait chaud.
Il fait chaud, oui. Vas-y, Nicolas.
Et Nicolas, en fait, a été celui qui a créé PILS. Et qui a mis en place la militance et la lutte contre le sida à Maurice, en tout cas associative.
Oui, on a été, on va dire, la première association qui a voulu travailler sur ces questions d'accès aux soins pour tous en utilisant le plutoyer.
Nicolas, on ne vous entend pas bien, vous pouvez vous redécaler encore une fois.
Rebouge encore.
Rebouge,
Nicolas,
va sur la plage, Nicolas.
D'accord.
Voilà, là, c'était bien, là.
Oui.
D'accord.
Là, bon, Nicolas, plus. Dis-moi, Nicolas, pour moi, l'île Maurice, c'est la plage, le soleil, tu vois. Alors que, bon, il n'y a pas que ça là-bas, hein.
Eh oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, malheureusement, un problème de sida assez important, puisqu'on a beaucoup de personnes qui s'injectent des drogues à l'île Maurice, qui représentent à peu près 1% de la population adulte. Donc, c'est énorme. Pour une population d'1 300 000 habitants, on estime à environ 10 000 personnes qui prennent des opiacés, donc des dérivés d'héroïne.
Oh là.
Ça a contribué fortement à faire que le VIH se propage à Maurice. Les lois n'ont pas suivi, c'est-à-dire que on a un problème de politiques autour des drogues très répressives qui n'ont pas du tout aidé à ce que les gens se protègent et puissent avoir accès à des seringues propres, par exemple.
Bien sûr, il y a la drogue, il y a aussi la prostitution, c'est à Port-Louis, Nicolas.
Oui, la prostitution, elle est présente comme elle est présente dans le monde entier, je veux dire, mais effectivement, les personnes qui se prostituent constituent un foyer.
Décale-toi encore un peu, mon cher Nicolas, on t'entend mal. Voilà.
Les personnes qui se prostituent sont très vulnérables, ouais. Un risque comme dans le monde entier. Hein, et on parle aussi de la population gay et bisexuelle qui elle aussi se cache parce que ça a beaucoup d'importance culturelle. Avec beaucoup de religions, la présence des religions est très importante. Donc forcément, ça crée des vulnérabilités.
D'accord.
Attendez, on en est à peu près à 1% de la population adulte qui vit avec le VIH.
Ah ouais, quand même. Nicolas, on t'entend assez mal. On va, Hervé, tu voulais...
Mais j'allais dire, oui, justement, PILS, vous vous occupez d'accueillir les personnes vivant avec le VIH et aussi, entre autres, le bus de prévention. Vous êtes directement sur le terrain.
Stéphanie, vous êtes rendue sur place à l'île Maurice, là-bas. Hein.
Oui.
Vous êtes Fightheads et partenaire, Fightheads Monaco, partenaire
oui.
avec...
Partenaire de PILS.
Et de Chrysalide.
Et de Chrysalide, oui.
Et on en est très fiers et très heureux.
Bah, nous aussi.
Et en plus, Nicolas, vous avez quand même eu la chance d'avoir notre présidente à un moment précis chez vous.
Décale-toi, Nicolas, on ne t'entend plus, mon petit. On va tout vite te laisser.
Si je ne me trompe pas, c'était l'inauguration de locaux.
Oui.
Absolument. Stéphanie est venue nous rendre visite. Ça tombait bien. Voilà. On inaugurait nos nouveaux locaux. Et notre terrasse, et ça a été un moment, bien sûr.
Super. D'accord.
Mais Stéphanie est venue à des moments plus discrets aussi. Elle a rencontré des personnes atteintes, et ça a toujours été un moment de partage et d'échange très, très fort.
Merci. On est obligé de te laisser, mon cher Nicolas. On t'entend pas bien. Hein? Bonne chance. Merci.
Bonne émission.
Ciao.
Oui, je ne sais pas si on a entendu ce qu'a dit Nicolas, et je pense que c'est important et ça illustre bien le combat de la princesse. C'est que il a dit qu'il y avait eu le moment de l'inauguration qui était un moment officiel, et la princesse y est allée de façon discrète pour rencontrer directement les personnes. Et ça, bien entendu, le grand public ne le sait pas, mais ça fait partie de votre travail dans la lutte contre le sida, c'est de rencontrer les personnes et de façon justement discrète.
Ouais.
Je crois que c'est pour ça que je le fais. C'est pas pour les inaugurations, quoi. Justement, c'est le terrain et de parler avec ces gens, ça apporte tellement. Et si moi, en passant un petit moment de ma vie, je peux changer un petit peu la leur, mettre un peu de soleil, je le fais plus que volontiers.
Alors justement, Princesse Stéphanie, en ce moment, à l'île Maurice, on l'a évoqué très très légèrement, il y a eu un changement de majorité, des élections,
oui.
Et scandale démocratique à l'île Maurice, le président serait parti avec la caisse...
Le Premier ministre
serait parti avec la caisse, effectivement. Est-ce que vous ressentez comme ça, dans ces pays où vous vous rendez compte, une certaine corruption qui peut empêcher les progrès pour les populations?
Ça, à Maurice, ça m'a beaucoup étonnée. C'est vraiment quelque chose auquel je ne m'y attendais pas du tout, surtout connaissant la personne. Maurice était assez protégé jusqu'à maintenant, parce que c'est justement, Maurice a quand même pas mal de ressources, entre autres avec le tourisme, la canne à sucre, enfin ils ont quand même... C'est pas Madagascar, quoi. C'est un pays qui est quand même...
C'est les hôtels 5 étoiles, c'est beaucoup.
Voilà, il y a beaucoup de monde qui passe, des millions de touristes par an. Donc, voilà, mais je crois que c'est comme dans tous les pays. Je veux dire, les guerres politiques, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai.
Mais ce sont des freins, ça, au développement de l'aide aux malades?
Non, je pense que à Maurice, c'est pas ça le problème. C'est pas un problème de corruption, parce que c'est à des petits niveaux. À Maurice, c'est un problème, ça a été, je pense, hein. Dans l'histoire, géré par tellement de pays différents, avec leurs lois différentes, qu'ils n'ont pas évolué et fait leurs propres lois, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de lois aux États-Unis, à Maurice, qui sont de la vieille Angleterre. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'ils arrivent à adapter ces choses-là. Voilà, on est en 2015. Et je crois que c'est juste ça le problème avec le système de santé aussi. Ils sont ancrés dans des trucs quand ils faisaient encore partie du Commonwealth. Et je crois qu'il faudrait qu'ils avancent dans ce système-là. Mais sinon, c'est un pays magique.
Et ben voilà.
Ils ont encore, Nicolas n'est plus là pour le dire, mais ils ont des lois discriminatoires où une personne, s'il est découvert séropositif, il est renvoyé. Ah. Ou il ne trouvera pas de travail non plus. Donc c'est des lois...
C'est pas le seul pays. Hein.
Non, c'est pas le seul. Mmh. Mais Maurice, qui semble justement un pays quand même touriste, mais évolué...
Il y a même des lois sur la sodomie aussi, à Maurice.
Aussi, oui, tout à fait.
Voilà.
Oui.
Donc il y a des avancées et heureusement qu'il y a des personnes comme Nicolas qui sont porteurs de messages au même titre que vous, Altesse, qui sont ambassadeurs quelque part et qui n'ont pas peur d'élever la voix quand il faut élever la voix.
On va récupérer Michael qui est là. Michael, salut, du lycée technique et hôtelier. Qu'est-ce que tu veux savoir, garçon ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà, j'ai deux questions à poser au docteur.
D'accord, ça tombe bien parce qu'il faut qu'il travaille un peu là, il va s'assoupir.
J'aimerais savoir si je peux avoir un rapport avec une fille qui a subi une IVG et savoir notamment qu'est-ce que ça change dans son corps.
Bah, ça change rien, sauf qu'une IVG, ça peut être éventuellement traumatisant, donc source d'inflammation au niveau local, et donc toute inflammation locale ou toute infection sexuellement transmissible associée est un facteur aggravant de contamination, c'est tout. Mais pour vous, personnellement, si vous êtes séronégatif, ça comporte pas de risque particulier, c'est plus votre partenaire féminine qui a plus de risques au décours d'une IVG de contracter une infection, le sida ou autre, si elle a un rapport non protégé. Pour vous, personnellement, ça risque rien.
D'accord.
Michael, mais je pense que c'est une question qui est intéressante, qui permet d'évoquer la question des grossesses non désirées et que l'on constate chez les jeunes encore aujourd'hui, alors que nous avons des moyens de se protéger et que ça dénote à la fois quelque chose de chez cette jeune femme ou du jeune homme. Les précautions n'ont pas été prises et qu'il n'y a pas eu cette conscience d'une grossesse potentielle. Et que de toute façon, une IVG chez une jeune femme ou chez une femme est quelque chose psychologiquement qui est lourd.
Enfin, ça dépend. Hein. Je suis désolée, il y a des femmes pour qui c'est lourd et il y en a qui prennent ça comme si c'était la pilule du lendemain.
Oui, mais ça n'empêche pas que psychologiquement, après, il puisse y avoir des effets.
Oui, pour la majorité de ces filles-là qui ne sont ni sous pilule et qui acceptent des rapports non protégés. J'ai pu en connaître une et qui prennent les IVG pour la pilule le lendemain, qui arrivent à 19 ans et qui ont déjà eu 3 IVG. C'est psychologiquement, elles ne sont pas atteintes. Hein. C'est juste la solution de facilité.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à travailler par rapport à une souffrance qui fait que l'estime de soi ou des choses comme ça sur.
Je pense que le travail aurait dû être fait par les parents longtemps avant.
Ah, bien d'accord. Tout à fait.
One Kiss, One Fight est la nouvelle campagne lancée par son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie. Avec elle et Fighted Monaco, dites non aux discriminations que subissent encore les personnes vivant avec le VIH. Tout comme Morane, Yannick Noah et bien d'autres, rejoignez cette campagne. Faites votre propre selfie, photo ou vidéo et postez-le sur le site onekissonefight.com. one-kiss-one-fight.com.
Bon ben voilà, c'est bien, hein, dis donc.
C'est beau, ça.
T'as vu, si c'est beau, c'est magnifique.
Ah, c'est magnifique.
Radio Monaco.
Alors là, la classe totale, hein.
Est-ce que tu as fait ton selfie, alors?
Oui, je l'ai fait. Tiens, tu veux qu'on l'écoute, là? On a le temps? Allez, tiens, on écoute. On a tout monté. Il y a les lycéens du lycée technique hôtelier. Ils ont parodié le SAV de Barre et Fred. C'est parti.
Je présente tous les anges gardiens, bonjour.
Salut! C'est ta tête sida! C'est ma petite chérie. Depuis peu, je lutte contre la discrimination des personnes atteintes du sida.
Ah, tu fais le One Kiss, One Fight?
Oui, voilà le One Kiss, One Fight. Je t'embrasse, mon petit chéri.
One Kiss, One Fight. Je suis contre la discrimination des personnes touchées par le VIH. C'est pas plus... Mais je suis énervé maintenant.
Les regardes, bonjour. Bonjour la France. C'était pour vous dire que j'étais contre la discrimination des personnages atteints du sida.
Oh, Angelina, vous faites le One Kiss, One Fight?
Oui, One Kiss, One Fight.
Bonjour, je suis Christophe Lory, je dirige les programmes de Radio Monaco. Je suis contre les discriminations faites envers les personnes vivant avec le VIH. C'est un combat. One Kiss, One Fight.
Service après-vente, ange gardien, bonjour.
Bah dis donc, t'es bien plein en soirée?
Non, je peux pas, là. Je lutte contre les discriminations envers les personnes atteintes du sida.
Eh bah t'as dû louper, on a fait une soirée One Kiss, One Fight.
Service après-vente des anges gardiens, bonjour.
Et salut, c'est encore.
Ça va?
Eh oui, je fais le One Kiss, One Fight.
Ah, c'est bien. Toi aussi, tu es contre les discriminations des personnes atteintes du VIH-SIDA.
One Kiss, One Fight.
Eh ben voilà. Et c'est pas mal, hein, c'est rigolo, on les applaudit.
Ouais,
ils sont bien bossés. On en parlera en fait, tout à l'heure.
Tu as mis ton selfie au milieu pour paraître jeune, c'est ça?
Toi, fais gaffe à ce que tu dis, sinon je dévoile tout. Hein. Enfin, attention, Ok, Hervé, les amis, il y a toujours Michael qui est avec nous. Bien sûr, Michael, t'as encore une question. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Oui.
J'aimerais savoir si ma partenaire est atteinte d'une IST telle que les chlamydias. J'aimerais savoir s'il vaudrait mieux arrêter le rapport ou si la capote me suffit.
Normalement, la capote suffit. La capote protège qu'inconstamment sur d'autres infections sexuellement transmissibles comme l'herpès, par exemple, mais sur les chlamydiés, sur la syphilis, sur les gonococcies, ça protège. donc il n'y a pas de souci. Mais si elle a une infection à chlamydia et si cette infection est symptomatique, ça risque de ne pas être un rapport très agréable pour elle.
Et s'il décide d'enlever le préservatif,
Qu'il se traite aussi.
C'est très contagieux.
Exactement. Il ne faut pas oublier dans toutes ces infections sexuellement transmissibles de traiter tous les partenaires contacts. Et des fois, on a des surprises, il y en a beaucoup.
De partenaires
contacts, oui.
D'accord. Alors voilà. Donc, hein, t'as compris, toi, qu'à 5-6 nanas en même temps. T'as compris, Michael? Ah, puis ça coûte cher après. Hein. Bonjour les antibiotiques.
On recommande quand le moment est venu d'enlever le préservatif, donc d'aller faire un test VIH tous les deux pour savoir si les deux sont séronégatifs et donc n'ont plus besoin d'utiliser le préservatif. Est-ce que dans ce cas-là, il y a besoin de faire des tests par rapport aux IST pour d'éventuels rapports précédents et des IST n'auraient pas été traités?
Je pense que c'est recommandé parce que par exemple une infection comme la syphilis peut passer totalement inaperçue alors qu'on est contaminé. Donc si on a eu une conduite à risque avec des rapports non protégés dans une autre vie ou dans une première vie, c'est jamais anodin de se faire dépister pour la syphilis, pour les hépatites, en particulier pour le sida. Encore une fois, ce sont des maladies qui peuvent être soit mortelles pour le sida ou les hépatites, soit source de complications comme la stérilité pour les chlamydiés notamment. Donc, bien sûr qu'il faut le faire. Il n'y a pas que le sida. Et encore une fois, heureusement que le sida est une infection relativement peu contaminante par voie sexuelle. Mais il y a beaucoup d'autres maladies. Et donc, quand on prend un risque pas que pour le sida, pour l'ensemble des infections sexuellement transmissibles.
Merci pour votre réponse, docteur.
Voilà, Michael. Merci, mon petit. Merci beaucoup.
Tu en as encore ?
Oui, non. J'aimerais profiter de cette occasion pour adresser ma parole à Son Altesse Sérénissime, pour adresser nos remerciements au nom de tous les adhérents au sein du comité des anges gardiens, parce que grâce à votre soutien, on a pu réaliser beaucoup de projets et je tenais à vous remercier.
Bon, si c'est pas de l'amour, ça. Merci Michael.
Merci.
On a avec nous le président des laboratoires Vive Healthcare. Je l'ai bien dit.
Bien,
Michel.
Bien, il répète depuis ce matin.
Dans les toilettes, partout. Les mecs disent, ça y est, des fous, l'autre. Bonjour Michel Perrozzo, président des laboratoires. Donc, quelle est la particularité du labo, justement, votre labo, par rapport aux autres labos qui travaillent aussi sur le VIH?
Je pense que notre particularité, c'est qu'en fait, nous sommes uniquement dédiés au VIH. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autres pathologies sur lesquelles nous travaillons. Toute notre recherche, tout notre développement est axé sur trouver des solutions au VIH, des solutions thérapeutiques. Alors, je sais que tout à l'heure, la princesse parlait d'autres alternatives. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a d'autres façons de prendre en charge un patient. Nous, on s'occupe de la partie thérapeutique.
Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu que vous aviez lancé un appel d'offres qui vient justement pour aider des associations. Et nous, nous sommes intéressés parce que nous avons des partenaires, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, dans des pays en voie de développement, et des partenaires seraient certainement intéressés pour postuler.
Tout à fait. Donc, effectivement, la société au niveau mondial a annoncé très récemment la mise en place d'un partenariat annuel, d'un appel à projet annuel, d'un montant de 5 millions de livres sterling, ça fait à peu près 6 millions et demi d'euros, qui est un appel à projet pour tout ce qui concerne la prévention de la transmission mère-enfant. Et dans ce cadre, en fait, n'importe quelle association, dans n'importe quel pays du monde, et bien sûr en Afrique anglophone et francophone, et dans le cadre de l'Afrique francophone, c'est le laboratoire français qui va se charger de faire la promotion de ces appels d'offres, nous ouvrons l'appel à projet pour que n'importe qui puisse candidater. Et donc, si c'est recommandé par le comité de surveillance qui va s'occuper du choix des projets, eh bien pour financer ce projet.
Ouais. Les traitements sur le VIH évoluent, Michel. Quels sont à l'avenir les nouvelles formes de traitement, d'après vous?
Bien, vous avez entendu peut-être hier à la radio qu'on parlait d'un nouveau traitement qui va être...
Les Américains,
voilà. Un nouveau traitement américain sera un traitement injectable.
C'est ça, et ça, on serait protégé du sida pendant 8 mois,
alors,
c'est ça?
Pour l'instant, cet essai, qui est un essai chez le singe, prouve qu'effectivement, sur 34 semaines, des singes ont été protégés et il n'y a pas eu de contamination. Donc là, on est plus dans la prévention que dans le traitement, puisque en fait, cette molécule empêche le virus de contaminer la cellule et donc de contaminer l'autre. Là, on est sur un modèle qui est encore chez le singe, donc on est, pour être très clair, on va dire à 5 à 7 ans d'un produit qui pourrait éventuellement arriver pour des patients humains. Donc on est quand même très très loin.
Et qui pourrait être toxique pour le
humain. Justement, ce qu'il va falloir établir maintenant, c'est par rapport à ce médicament, quel est son profil de toxicité ou de tolérance, quel est son profil d'efficacité, et ce qui peut vraiment marcher aussi bien chez l'homme qu'il marche chez le singe. faut savoir que notre laboratoire nous travaille également dans cette dimension sur des médicaments injectables qui seraient des médicaments injectables une fois par mois.
Ouais.
Alors vous connaissez aujourd'hui les trithérapies, on parle beaucoup de trithérapies. Nous on est en train de développer un médicament qui serait en fait une bithérapie, une combinaison de deux molécules qu'on injecterait une fois par mois.
Et
chez un patient.
Ce serait l'avantage pour les personnes de ne plus avoir à prendre leur traitement
tous les jours,
hein. Comme aujourd'hui.
Exactement. Ouais. C'est bien ce qu'on vit, c'est-à-dire, et ça serait sûrement un traitement qui aurait une bien meilleure tolérance, en fait.
Et donc, du coup, une meilleure adhésion sur la régularité pour les personnes quand on sait que c'est important de le prendre.
Et c'est ce que les essais cliniques aujourd'hui doivent démontrer.
Et en plus, comme ça, ils vont chez le médecin une fois par mois.
Tout à fait.
Et ben voilà.
Chez une infirmière.
Stéphanie, est-ce que ça vous rend heureux, tous ces progrès en labo, en laboratoire? Et peut-être un issue, on aura un jour un vaccin pour éradiquer.
Oui, heureuse, c'est peut-être pas le bon
c'est
mot.
C'est pas le mot. Hein.
Oui, c'est plein d'espoir, c'est bien, mais tant que c'est pas 100 plus 200 et 100%, moi, j'y crois pas. Quoi. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais je veux pas en parler. Parce que, voilà, on a sorti toutes ces dernières années, plein de choses, plein de traitements. Ah ouais, c'est génial, c'est 66%, 74%, machin, on sait pas. On n'a pas le recul sur la chose, donc je veux pas crier victoire et hurra, tant que c'est pas sûr et fiable sur la durée et à plus de 150%, quoi. Parce que, je veux pas que les gens y croient que voilà, c'est des avancées, mais c'est encore un projet de recherche et tant que c'est pas abouti et finalisé, c'est pas voilà, il faut pas trop en parler quoi.
Malheur ce que l'on entend avec la princesse quand on rencontre les personnes, c'est que justement pour eux c'est des déceptions quand ils entendent ah bah oui, il y a peut-être effectivement on va peut-être pouvoir le prendre une fois par mois. Mais c'est encore qu'à l'étude.
Et puis après, chaque cas est différent. Je veux dire, ça s'adapte pas à tout le monde non plus.
Oui.
Je pense que peut-être ces nouveaux traitements pour nous, les personnes dont on s'occupe à FightAIDS, qui sont contaminées depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis autant d'années, je sais pas si ces traitements vont marcher. Et on ne sait pas. Peut-être pour les nouvelles contaminations, ça va être bien. Mais je crois qu'il faut pas crier victoire tant qu'on n'est pas à 150% sûr, quoi.
Bah ouais.
Non, moi je partage tout à fait. Je pense que depuis 30 ans, il y a eu tellement d'effets d'annonce et beaucoup de déceptions. En 2013, il y avait ce fameux vaccin marseillais, donc qui est pas du tout abandonné, le Tatoi, où on nous a dit tout, et voilà. 2014, je sais pas si vous en souvenez, il y avait la protéine de corail, par exemple, qui neutralisait le virus. 2015, donc, il y a cette fameuse protéine ECD4 IgG, ça s'appelle comme ça, qui semble donner quand même, chez le macaque, des résultats extraordinaires, quand même. Hein. Après, c'est pas la même problématique, je vais laisser la parole à Michel Perrot. Ce dont parle Monsieur Perrozzo au niveau de ce qu'on appelle le cabotegravir, c'est quand même quelque chose.
Le quoi?
Le cabotegravir, d'accord.
C'est des noms médicaux.
Voilà. Non, mais c'est quelque chose à retenir parce que peut-être que c'est quelque chose qui, dans les années qui viennent, là, c'est quand même plus abouti et ça a l'avantage de traiter les patients et de prévenir l'infection VIH. Donc c'est la double casquette. Donc, je laisse la parole à Michel Perrozzo parce qu'il est plus calé que moi là-dessus, mais en tout cas. C'est pas pareil que c'est plus abouti au niveau de Vivesker que tout ce qu'on vient de dire.
Ouais. Je voulais juste rajouter, Michel, avant, c'est que quand on parle de tout ça, il y a beaucoup de relâchement maintenant, surtout parmi les jeunes. Il y a 35% d'étudiants qui ne mettent jamais de capote.
Mais enfin, moi, je voulais pas continuer à parler de cette molécule. Je voulais plutôt revenir à ce que disait la princesse parce que je suis tout à fait d'accord. Je pense que on avance dans la thérapeutique, mais il faut absolument pas oublier le patient à côté et tout ce qui peut être fait à côté pour lutter contre la discrimination. Vous en parliez tout à l'heure. La discrimination, on n'a pas autant progressé sur la discrimination en 30 ans qu'on a progressé sur la thérapeutique. Or, il faut bien avancer sur la discrimination, il faut bien avancer sur l'aide aux patients, et c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler. Donc, on continue à travailler sur les médicaments. Effectivement, on apporte des améliorations, mais il faut surtout faire tout ce qui est à côté et ce que vous faites avec votre association, et je tenais à vous en féliciter.
Merci.
Il faut pas que les progrès dans les médicaments continuent à entraîner un relâchement, parce que le relâchement, plus les médicaments sont efficaces, et encore une fois, il va peut-être y avoir des molécules que l'on va éjecter tous les 3 mois en prévention ou autre, et plus il y a un relâchement, et ce relâchement, il est délétère, parce qu'encore une fois, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'infection VIH. Au jour d'aujourd'hui, les gens, en particulier séropositifs, ils meurent de cancer du foie à cause de l'hépatite, ils meurent de cancer du col de l'utérus à cause du papillomavirus, ils meurent du cancer du canal anal, toujours à cause du papillomavirus, et toutes ces choses-là ne se protègent que par le préservatif. Donc, quelle que soit l'efficacité actuelle des trithérapies, qui sont de plus en plus efficaces et de mieux en mieux tolérées, ces trithérapies ne résolvent qu'un seul problème, c'est l'infection VIH. Elles ne résolvent pas tous les problèmes associés qui deviennent chez une population vieillissante le problème majeur et le défi des années qui viennent. Le défi des années qui viennent, c'est un défi social, comme l'a dit notre présidente, et c'est un défi de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire tout ce qui est associé au VIH. Plus d'une personne sur deux a plus de 50 ans, et malheureusement, les gens vont mourir de détérioration cérébrale, de cancer du foie, de cancer autre ou de maladies cardiovasculaires, et il faut en avoir conscience et il faut le prendre en charge pour qu'ils aient une vieillesse harmonieuse et sereine.
Un dernier petit mot, Michel.
Non, je voulais vous remercier de m'avoir accueilli et de m'avoir donné la parole.
Oui, il faut peut-être dire pourquoi oui. Michel est là quand même, parce que il est quand même...
C'est toi qui me l'as présenté.
Oui, non mais ça d'accord. Il nous fait l'honneur de venir et il avait envie de rencontrer notre présidente, mais il faut quand même dire que Michel a fait un don pour l'association de 30 000 euros.
Oh là.
Voilà, et que ce don sera utilisé en grande partie pour la maison de vie et en plus petite partie sans doute sur Monaco, mais en tout cas Michel Perrozzo nous a assuré de son fidèle soutien, ben et ça bien. On en est très fiers et très heureux.
Ben revenez plus souvent, Michel, alors.
Merci en tout cas que les laboratoires, la recherche s'intéressent au côté social de la maladie. C'est très bien pour une fois.
Continuez le combat. Merci beaucoup. Merci.
Michel Perrozzo, merci beaucoup. On l'applaudit, oui. Restez avec nous, les amis. On revient dans quelques instants. À tout de suite.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Oui, bien sûr, c'est l'événement aujourd'hui, puisque Radio Monaco accueille Jungle Fight, la première émission de radio de lutte contre le sida, présidée et animée par la Princesse Stéphanie. Bonjour. Et est avec nous Alison. Bonjour Alison, du lycée technique hôtelier. Ça va bien,
micro ben oui, ça va bien.
Oui. Alison, qu'est-ce que tu veux savoir? Allô?
Alors, oui.
Oui, quoi?
Donc, demain, ça va faire...
Ça va faire quoi?
Demain, ça va faire un mois qu'on m'a dit que j'avais la sclérose en plaques. Et donc, dans un premier temps, oui. D'après le médecin, donc le neurologue, il y a une possibilité que ça soit à cause du Gardasil. Et dans un deuxième temps, sur le compte-rendu du neurologue, j'ai vu qu'il était possible que ça soit dû au EBV. Et donc, a priori, suite à une mononucléose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, réponse 2.
Malheur, il n'a pas compris EPV, tous les.
Non, je ne comprends pas ça.
EBV, c'est Epstein-Barr virus, c'est le virus de la mononucléose infectieuse. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie qui malheureusement touche la gaine des nerfs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la myéline, ouais. Et qui donne des troubles neurologiques divers et variés en fonction de l'endroit où se situe l'atteinte. Après, c'est toujours le même débat. On a parlé de l'hépatite B, on a parlé du vaccin contre l'hépatite, on parle maintenant du vaccin contre le papillomavirus pour le Gardasil. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin contre l'hépatite et le vaccin contre le papillomavirus permettent de sauver des milliers de vies par rapport au risque d'évolution vers le cancer du foie, le cancer du col de l'utérus. Donc, au jour d'aujourd'hui, aucune étude épidémiologique, et il y a normalement, en Europe du Nord notamment, des registres de surveillance, aucune étude n'a démontré de lien entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques, de vaccin contre le papillomavirus et la sclérose en plaques. Et donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, ça traîne sur tous les forums. Je pense que malheureusement, c'est le désarroi médical et c'est le désarroi des patients qui ne permettent pas de trouver d'explication à une symptomatologie. Et malheureusement, on essaie toujours de trouver une cause. Mais je pense que ça déstabilise plus les patients qu'autre chose. Et je pense qu'il faut dire et redire aux gens qui nous écoutent, il faut que les mères fassent vacciner leurs filles, parce que ça me paraît primordial. Entre 10 et 14 ans, ou en tout cas, dans la première année qui suit le premier rapport sexuel. Mais sincèrement, aucune étude ne remet en question la vaccination contre le Gardasil.
Tu veux savoir autre chose?
Oui, j'ai une autre question. Donc, quand j'ai expliqué ma maladie aux autres, bien souvent, ils m'ont tourné le dos. Parce qu'ils avaient peur que ça s'attrape, que ça soit une maladie qui s'attrape comme le sida. Comment ça se fait que certaines personnes réagissent comme ça?
Voilà, les gens ont peur de tout.
La débilité. La bêtise. Oui. La débilité, voilà.
Bah, les gens ont peur de tout maintenant, voilà.
Oui. Ils ont eu peur de l'attraper.
C'est ce que l'on appelle aussi les discriminations, ce pourquoi la princesse ou vous battez.
Non, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que c'est juste de la débilité profonde, la bêtise, et que si ces gens-là ont réagi comme ça, ils ne te méritent pas comme ami, ils ne méritent pas que tu leur parles, voilà, c'est tout.
Et qu'il y a aussi un besoin d'information, comme on le voit pour le VIH et comme certainement.
Mais même l'information, ils s'en fichent. Regarde où on en est avec la discrimination.
Oui, mais quand dans une famille, par exemple, le VIH arrive, la première crainte, c'est d'être contaminé. Quand on sait qu'après, on connaît la réalité des risques et que dans la vie courante, comme pour la SEP, il n'y a pas de risque de contamination dans la vie courante. Donc ça ne change rien au niveau. Donc ça, c'est peut-être expliqué que ce n'est pas parce qu'on a cette maladie qu'il y a un risque.
Mais t'as qu'à leur répondre que t'as peur d'attraper la connerie parce que c'est contagieux.
Et ça s'attrape facilement. Hein.
Et puis, excuse-moi, je peux plus parler parce que la débilité, c'est très contagieux.
Tu leur dis que c'est la princesse qui t'a recommandé de leur
voilà.
Et comme ça aura plus de poids.
Et voilà, s'ils sont comme ça, ils méritent que tu les ignores. C'est tout.
Et ben voilà, ça c'est dit. De toute façon, tout est toxique maintenant, Franck Herman, toi qui es journaliste. Tu galères.
Toucher quelque chose, effectivement, m'a l'air. C'est pas évident.
Ouais, ça n'a pas été terrible.
Faites votre propre selfie, photo ou vidéo et postez-le sur le site onekissonefight.com. one-kiss-one-fight.com.
Ok les amis, on va en reparler tout à l'heure avec la psy, bien sûr, de cette campagne absolument merveilleuse avec un selfie de la princesse Stéphanie qui a été vu plus de 70 000 fois. Stéphanie, vous le saviez ça?
Ça change toutes les secondes, donc je ne peux pas être au courant, n'est-ce pas?
Donc c'est pas mal ça, c'est bien.
Bah, plus que énorme. Le tien déjà, c'est pas mal.
C'est énorme même.
Bah, c'est bien, mais oui. Il en faut plus.
Ah ben c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Élodie, mais c'est sûr qu'on ne comprend pas quand on voit comme la princesse est regardée, son selfie est vu. Et après, ben, il faut qu'on arrive à mobiliser les gens.
Il faut mobiliser les médias sur Paris, moi, je pense. La télé,
tu vas nous
aider. On va faire une télé. Ils sont morts, tous les gens que je connaissais.
Ah oui?
Ouais, ouais. Bah oui, j'ai longtemps que j'ai quitté la capitale, je sais bien.
Ils sont tous.
Un fossile.
Non, mais c'est très juste ce que tu dis.
Que?
Qu'on puisse lancer un appel pour
il faudrait passer à la télé maintenant.
Oui.
Bah oui, sinon, voilà. On va organiser ça. On accueille Sylvie et Shanaz, qui est Sylvie à gauche, Shanaz à droite. Salut les filles, ça va?
Ça va.
Bonjour. Alors, toutes les deux, on en parlait tout à l'heure, vous avez vu 50 nuances de Grey's, n'est-ce pas, au cinéma, vous êtes précipitées?
Oui.
Ouais. Donc, il y en a une qui n'a pas aimé et l'autre qui a aimé le film, c'est ça? Sylvie?
Oui.
Critique littéraire maintenant, cette émission.
Ah, j'en sais rien, mais non, mais c'est lié. Mais
le
oui,
pour
mais
et le contre, alors nous écoutons.
Mais c'est des rapports sexuels, tu verras quand on aura Hervé.
Moi,
Sylvie.
En fait, oui, je suis allée voir le film parce qu'il avait eu beaucoup de succès. Et au début, j'avais bien aimé, mais après, c'est vrai que c'est
quoi le début, tu as bien aimé?
Oui,
ouais, pourquoi?
Parce que c'était romantique et tout ça.
On va pas voir le film pour ça. Hein.
Oui, non, Sylvie.
Mais si à son âge, plus au tien.
Voilà.
Bon.
Mais toi, c'est pas ce style de film-là que tu regardes donc.
Mais après, c'est vrai que c'est parti dans des trucs un peu.
C'est quoi, sadomasochisme, c'est ça?
Oui, vraiment, ça faisait. Enfin, c'était vraiment.
Tout le film est basé là-dessus. Hein.
Oui, voilà.
Ça t'a dérangé?
La femme était vraiment.
Un objet.
Limite massacrée. Enfin,
humiliée plutôt.
Oui, voilà. Humiliée.
Non respectée.
Et... voilà, tout à fait.
Mais ça rentre pas dans l'ordre des fantasmes, non? Ça,
non, pas
un
du
petit
tout.
Peu.
Non, mais le problème, c'est qu'il y a certains jeunes qui prennent exemple sur ce style de film, et même au niveau de la sexualité, qui s'inspirent de films à caractère pornographique sur Internet pour le reproduire avec leurs
amis. C'est pas un film porno, Stéphanie.
Oui, non, mais je te dis qu'ils prennent ça comme exemple parce qu'ils n'ont pas de discussion ou quoi, et c'est ça qui est dangereux, que justement, puisqu'on en fait un film de ces pratiques-là, après, chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour critiquer, mais qu'après, ça soit banalisé et que les jeunes se disent, tiens, ils le font dans le film, je vais faire ça avec ma copine.
Ouais.
C'est dégradant, et après, comme je vous dis, les adultes font chacun ce qu'ils veulent. Mais là, c'est un film où, voilà, tous les jeunes vont le voir et ça salit les rapports humains. L'amour, ça doit être une belle chose. Les rapports entre deux personnes, ça doit être quelque chose de beau. Après, si les goûts de chacun, ça, je suis pas là pour critiquer, mais pourquoi en faire un film et pourquoi faire ça?
Ouais. Voilà, ça donne un peu de piquant dans l'amour, Bruno Taillant.
je partage l'avis de notre présidente. Moi, je suis pas là pour juger. Toutes les pratiques sont autorisées à partir du moment où les deux ou les autres.
Ils font
consentants.
Oui, c'est
moi. Si, c'est moi.
Ouais.
Voilà. Et
c'est ta fille qui t'appelle.
Donc voir
le film.
Non, mais moi, je veux rebondir là-dessus. Tiens, l'autre jour, j'ai vu une jeune fille dans le cadre d'une prise en charge d'un accident d'exposition au risque viral qui avait été agressée sexuellement par un jeune homme dont c'était la première expérience sexuelle, c'est-à-dire qu'il était vierge, et il rentre dans la sexualité par une agression sexuelle. Donc,
mais c'est un cas, ça.
Oui, non, mais
oui,
voilà,
mais c'est un cas qui peut se reproduire. C'est tous les choses qu'ils voient sur Internet.
C'est la banalisation.
Et les films, c'est tout. Puisque c'est romancé autour d'une histoire, justement, romantique, mais après, voilà. Les garçons, à leur âge, c'est débile. c'est pas. Ouais. Enfin, après, ils changent pas non plus pour certains. Mais je veux dire, après, voilà, ils vont s'inspirer de ça. Et pourquoi on a déjà assez de problèmes humains de nos jours? Pourquoi en rajouter et dégrader la femme et les rapports amoureux? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Au contraire, on devrait. On vit dans un monde un peu pourri en ce moment. On devrait au contraire faire les choses jolies, douceur, jolie, douceur de oui, pas de...
Alors Chalas, toi, tu t'es mal du coup parce que toi, t'as aimé le film.
Non, j'ai pas aimé du tout.
Oh, zut alors.
Non,
toi non plus, pour quelle raison?
Je sais pas, je suis arrivée... Enfin, au début, oui, c'était mignon et tout, mais après, la femme, elle se fait trop humilier, j'ai pas aimé du tout. Enfin, quand ils sont arrivés dans une salle avec plein de fouets, j'ai regardé mes copines, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Enfin...
Ah ouais, c'est ça.
À la base, j'y suis allée parce que tout le monde disait, ouais, c'est une belle histoire d'amour et tout, mais en fait, pas du tout, c'est trop hard, quoi. Et j'ai pas aimé.
Bon, il paraît qu'ils ont jamais vendu autant d'outils chez Castorama.
Et Princesse Stéphanie, les associations en général qui luttent contre le sida font bien attention de ne pas verser dans le moralisme et de dire ceci n'est pas bien, ceci. On n'a pas l'impression que depuis 20 ans maintenant, on est passé de l'autre côté justement et qu'on donne peut-être un message contradictoire.
La morale, ouais, qui s'installe un peu
non,
partout.
Non, après ça, c'est mon avis personnel. Et moi, je n'ai jamais imposé mon avis personnel à qui que ce soit. Je veux dire, après, chacun fait ce qu'il veut. Je dis juste que c'est dommage de faire des films comme ça parce que voilà, c'est le danger. Les jeunes sont fragiles de nos jours. C'est par amour, on n'est pas obligé de faire des choses comme vous voyez dans ce film. Voilà. Et par amour, surtout les filles, putain, mais soyez fortes, quoi. Je veux dire, c'est des girl power, c'est ça, je veux dire. Parce qu'on est, par amour, il y a des types qui vont vouloir vous faire n'importe quoi, mais tenez bon, quoi. Et c'est ça qui me dérange dans ce style de film, c'est que, voilà, par amour, ben, on en arrive à ça, cette salle avec tous les fouets et tout, elle est pas forcément d'accord, mais par amour, elle va le faire, quoi. Et ça, c'est pareil pour le, on en revient au VIH, quoi. Par amour, bah, il va avoir un rapport non protégé, sinon il va me larguer, il va me laisser, alors je vais le faire. Non, faut pas. Et je pense qu'il y a trop de jeunes filles qui sont encore sous cette pression-là, et il faut que les jeunes filles de nos jours aient le contrôle sur leur sexualité. Comme dans des pays où des femmes ne l'ont pas, mais je crois que, au contraire, si c'est la fille qui sort le préservatif de son sac, il faut arrêter que ces machos disent, ouais, c'est une fille facile, c'est un préservatif dans son sac. Non, c'est une fille responsable. Une jeune femme qui prend sa santé et sa vie sexuelle entre ses mains, et c'est elle qui décide de ne pas être contractée de maladie, de ne pas, voilà. Et c'est, je trouve ça très bien.
Et ben voilà.
Chevelle, et concernant ce sujet de la morale, justement, peut-être, Princesse Stéphanie, avez-vous entendu parler de cette association catholique en France, qui a décidé de porter plainte contre un site d'infidèles. Simplement un site où on s'inscrit pour avoir des relations infidèles.
Ah oui,
et alors, qui s'est fait tomber à bras raccourcis.
C'est
dessus,
des couples mariés qui vont
catholique.
Là-bas. Mais ils font ce qu'ils veulent en même temps. C'est des personnes adultes,
leur décision, bien sûr.
Mais je comprends pas. Déjà, les, alors, ne parlez pas des associations catholiques, puisqu'ils sont contre le préservatif. Donc, on va se les mettre à dos aussi. Mais je veux dire, je crois qu'il faut vivre avec son temps. De croire encore maintenant qu'un jeune déjà va se marier sans avoir jamais eu de rapport sexuel, il faut habiter sur Mars.
Dans
cette association catholique, peut-être. Mais bon, ça, c'est les convictions de chacun.
C'est ce que vous disiez, voilà, c'est ça. Nous, l'association, quand vous posez la question par rapport à la morale, on n'est pas dans la morale, c'est ce que la princesse explique. On est dans le respect. Et quand la princesse parle aux jeunes filles, c'est respectez-vous.
On va en parler tout à l'heure, justement, avec la Caroline, hein, la psy.
Oui, Malheur.
Oui. OK, c'est fini, les filles?
Oui.
Merci beaucoup, merci. Jean-Marie, merci, on t'accueille, mon petit Jean-Marie, s'il te plaît. Viens avec nous, t'es là.
Bon, merci beaucoup. Il est pas si petit.
Ouais, il est balèze. Hein.
Quand tu dis mon petit, on croit que c'est un étudiant. Oh, bah
attends, Jean-Marie est affilié et tout.
Regarde, il est plus étudiant.
Physique de baroudeur quand même. Salut Jean-Marie, ça va?
Bonsoir.
Alors Jean-Marie, t'es là parce que tu étais le week-end dernier, un week-end de ressourcement à la Colle-sur-Loup.
Avec Frighteds Monaco.
Ben oui, justement. Alors c'est quoi un week-end de ressourcement?
C'est à l'invitation de l'association. Un week-end où on va se retrouver entre séropositifs, avec des bénévoles, avec des animateurs, sur un thème bien précis. Et c'est un moment très très privilégié. Parce que déjà une rupture avec le quotidien, pour nous c'est important.
Et beaucoup de gens sont seuls comme toi, souvent.
Beaucoup de gens sont seuls, et ils n'ont pas surtout de lieu où pouvoir discuter, pouvoir échanger en toute liberté avec d'autres personnes séropositives et avec des intervenants qui sont sensibilisés et qui donc sont tout à fait empathiques. Il y a de la chaleur. C'est une forme de fraternité ces week-ends.
Oui.
Et c'est ça apporte beaucoup de pouvoir discuter, voir les gens qui vont moins bien, les gens qui vont plutôt bien, plutôt mal, de pouvoir se retrouver tous ensemble sur la longueur d'un week-end.
Ouais. Hervé, tu étais?
Oui, bien sûr, oui. J'étais, et là, nous avions un thème particulier, puisque nous avons travaillé sur avec une association qui s'appelle L'Art de Vivre, et qui nous a proposé un week-end avec un thème bien défini, qui est développé dans plus de 150 pays, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà reconnu et éprouvé, et c'était l'art du bonheur.
Donc vous arrivez là-bas le vendredi soir jusqu'au dimanche, c'est ça? Vous
avez passé deux nuits là-bas? L'après-midi, oui, on passe de nuit.
C'est ce qu'il y a d'intéressant dans les week-ends de ressourcement, c'est que il y a ces moments en dehors des ateliers où on partage comme dans la vie de famille, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver soit après avoir mangé, boire une tisane ou
boire une tisane, question pour un champion le soir, puis hop, tout le monde au lit.
Il y en a qui font ça, il y en a qui vont jouer aux cartes, il y en a qui discutent au coin du feu, et puis le lendemain matin c'est partager le petit déjeuner où là, dans ce moment-là, ben, on échange autre chose que certaines fois dans la vie courante ou lors des accueils de l'association.
Et c'est beaucoup plus fort que les accueils parce qu'on passe plus de 48 heures ensemble, donc on a le temps de s'approcher, de s'apprivoiser, de se connaître, et ça, c'est très important. Il naît des amitiés, il naît des relations vraies. Alors que les petits accueils, on reste 2-3 heures, c'est beaucoup plus superficiel.
Les techniques, c'est quoi? Des techniques hindoues, j'ai entendu parler, non?
C'était curieux, ça faisait un peu appel au yoga, ça faisait appel à la respiration par l'hyperventilation. Nous avons chanté.
L'hyperventilation,
oui, des respirations très profondes et très, très travaillées. On a chanté, on a dansé, et c'était même tellement fort qu'à un moment, je me disais, mais là, on est un petit peu dans une secte, et on y resterait bien, parce qu'on se sentait bien.
À un moment, il y a un mec qui est arrivé avec 6 bras et 3 jambes, non?
Non, c'est justement notre attention à Fighter de Monaco, c'est de proposer des nouveaux thèmes pour que les personnes que l'on accompagne puissent s'en saisir si ça les intéresse. Et bien entendu qu'on fait attention d'avoir des intervenants qui soient dans une démarche humaniste et qu'il n'y ait aucune justement recherche de fidéliser, même sans tomber dans le côté secte. Mais il n'est pas question d'avoir des gens qui viennent pour vendre leurs produits, pour après vendre aux affiliés. C'est des choses qui sont libres, et après, libres aux personnes d'adhérer ou pas.
Bien sûr. Jean-Marie, toi, tu m'as dit que t'étais complètement crevé le dimanche quand t'es reparti, non?
Oui, alors en fait, ils nous avaient averti que d'une part, il fallait manger léger pour épurer notre organisme, et ils nous avaient prévenu que tous ces exercices nous fatigueraient. Ils nous avaient recommandé d'ailleurs de nous coucher tôt, et effectivement, j'ai ressenti la fatigue, en fait, pas vraiment sur le week-end, mais le lundi matin, où vraiment je me sentais vidé.
Mais bien, mais heureux.
Et détendu. Alors, on sort de ces week-ends toujours un petit peu euphorique. Puis après, le quotidien prend un peu le dessus. Et bon, il y en a certains, néanmoins, on nous a conseillé de faire des exercices quotidiens. Je pense que ceux qui s'y astreignent ont un bénéfice plus grand encore que ceux qui laissent, au fil du temps, choses s'évaporer un petit peu.
Ouais, Jean-Marie, tu me disais, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus souvent. Il faudrait faire ça plus souvent, non?
Oui, bien sûr, mais ça veut dire que c'est un investissement et financier et aussi en temps, et que nous travaillons avec des bénévoles qui donnent de leur temps pendant 48 heures, c'est-à-dire que certains travaillent, et en plus de leur travail, ils viennent pour ces week-ends qui sont des moments forts de partage et qui pour nous sont percutants quand des personnes comme Jean-Marie nous disent, ce que Jean-Marie, je révèle rien, ce que tu disais à la princesse tout à l'heure, c'est que ça permet tu as dit, de rebondir.
Oui, de rebondir, de faire un break et de repartir regonflé, en fait.
Ça sert à ça, ouais. C'est bien.
Et ces liens qu'on établit, en plus, moi, j'ai eu un petit, j'habite assez loin, et pendant quelques temps, je ne suis plus venu à l'association. À ce week-end, j'ai revu un tas de gens, et j'étais ravi, parce que chacun suivait son chemin, et on avait plein de choses à se dire.
Et il est revenu mardi au cours de yoga. C'est ce que vous disiez, Altesse, vous, c'était ce que vous vouliez avec l'association.
Exactement, on y arrive. Et ces week-ends de ressourcement, comme on parle Jean-Marie, c'est des mini-maisons de vie. En fait.
Oui. Et puis, moi, je suis engagé bénévolement dans d'autres associations. Ça me fait aussi un bien fou. Au lieu de m'occuper des autres, on s'occupe un peu de moi. J'aime beaucoup ça.
Merci, mon petit Jean-Marie, d'être passé nous voir. Merci. Ok, les amis, on revient avec
Hervé le gourou maintenant.
Hervé le gourou.
Jungle Fight sur Radio Monaco. avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Mais oui, encore un événement aujourd'hui sur Radio Monaco, les amis, puisque nous accueillons Jungle Fight, première émission de radio de lutte contre le sida, présidée et animée par la Princesse Stéphanie. Ouais. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Avec le célèbre docteur Bruno Taillon, Hervé Sbach, Franck Herman, journaliste, et bien sûr, ils sont avec nous, les élèves du lycée technique hôtelier de Monaco. Bravo. On accueille Vincent. Salut Vincent, tu vas bien?
Ça va et vous?
Ouais, je me souviens, toi, t'avais posé des bonnes questions la dernière fois. Hein. Oh là. Et Lola, salut Lola.
Bonjour.
Et nous accueillons Caroline Sammori Pécou. Caroline, bonjour Caro,
bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, j'espère que je vais donner de bonnes réponses.
Il faut, courte, hein.
Oui.
Parce qu'on s'est dit, Harvey...
C'était trop longue la première fois.
Des réponses à kilomètres.
Mais il est
non mais c'était bien, hein.
On va essayer de faire mieux.
Il dit ça parce qu'il ne comprend pas ça.
Ouais.
dis donc vous. Donc c'est
si on résumé.
Alors, vous venez de faire avec le célèbre Hervé Sbach des rencontres avec les terminales là-bas, au lycée technique hôtelier.
Ça fait plus de 10 ans. C'est une longue histoire, monsieur Hervé Sbach et moi.
Oui, mais pour parler de sexualité, est-ce que c'est le bon personnage pour parler de sexualité?
Mais on est de plus en plus à l'aise, hein, pour aborder ça avec nos jeunes. Hein. Je crois que, avec le temps, on arrive à trouver une façon d'aborder ça avec eux. Enfin, c'est eux qui vous le diront. Où je pense qu'on improvise de plus en plus et puis on a de plus en plus d'espace pour eux.
Bon, les filles et les garçons étaient mélangés, même.
Oui. Et c'est intéressant par rapport à notre parcours aussi, puisque Caroline est psychologue, donc on intervient sur les questions de sexualité, donc on peut parler bien entendu des risques liés et donc du VIH.
Bien sûr.
Mais nos deux places, au-delà de représenter le sexe masculin et le sexe féminin, il y a le point de vue de la psychologue et le point de vue du sexologue. Donc c'est aussi une façon de compléter et de jouer sur des terrains complémentaires.
Alors les thèmes, c'était quoi? Il y a eu, j'ai entendu dire, les zones de plaisir, la pornographie.
Retenu les zones de plaisir.
Bah attends, c'est toi qui me l'as dit.
D'abord, la relation amoureuse, soyons un peu romantiques. On part de la relation amoureuse.
D'accord.
Hein, c'est quoi aimer? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme? Qu'est-ce qu'on attend d'une femme?
Oh là.
Voilà, avant d'aborder les zones.
C'est un vaste programme, intéressant.
Qu'est-ce qui est important dans l'amour? Qu'est-ce qui est fondamental?
Mais oui, mais comme on ne se connaît pas au départ, c'est l'attrait physique qui prédomine, non?
Ça peut ne pas l'être. Parce que justement, quand on demande qu'est-ce qui est essentiel pour un homme, comme qu'est-ce qui est essentiel pour une femme, on s'aperçoit que les réponses ne sont pas les mêmes.
Ah d'accord. Parce que, par exemple, Lola. Salut Lola. Qu'est-ce qui t'attire chez un garçon, toi? Sa carte bleue?
Non.
Hein?
C'est un peu difficile à répondre comme ça au micro, parce que quand on pose ces questions, c'est en groupe et c'est plus facile. Voilà. Là, être interrogé comme ça, toute seule au micro, t'es un peu dur.
Malgré. Bon, je suis un peu dur. On va passer au...
Ils ont dû parler. Vachement plus dur que ça, quand même.
Attends, c'est
pas
difficile.
Hervé, ils viennent quand même ici nous parler de leurs soirées, de leurs expériences sexuelles.
C'est pour ça que les choses les plus simples sont des fois simples à dire, peut-être.
Alors Vincent, qu'est-ce qui t'attire chez une femme?
C'est un tout, il y a... Non, mais c'est vrai, il faudrait... Il faut qu'elle soit intelligente, qu'elle soit...
Mais tu le sais pas, avant, quand tu la vois, tu sais pas si elle est intelligente.
Ça se voit sur sa tenue. Une personne qui se tient bien, de suite, elle sera plus attirante qu'une personne qui s'affaisse, qui sait pas se tenir.
Qui s'affaisse. Y a Bruno Taillon qui me regarde. D'accord.
C'est un tout.
Toi, t'as besoin, vraiment, avant le plaisir, tu penses déjà... quelqu'un avec qui tu vas pouvoir passer des grandes discussions et passer des grands moments.
Ce qui est important, c'est d'entendre justement les variétés de réponses, à la fois entre les garçons qui ont des réponses différentes par rapport à ça, et les filles en face qui, elles, vont donner d'autres réponses. Et c'est finalement pas de chercher à comprendre parce que tu as l'air surpris quand il dit intelligente. Oui, ça peut être intéressant.
Mais est-ce qu'ils sont pas gênés de. Ouais, je vous vois venir. Mais est-ce qu'ils sont pas gênés de parler de sexualité? C'est vachement difficile devant tout le monde.
Depuis le temps,
Caroline.
Ici, ils
ne
sont pas gênés.
On les oblige ici. Hein.
On interroge.
Caroline.
Oui, mais on n'aborde pas. C'est pas comme ça qu'on l'aborde. On les laisse chacun s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils attendent de la rencontre à l'autre.
Et qu'est-ce qui ressort de ça, justement,
ces discussions?
Par exemple, quoi? En vulgarisant, faisant court.
En vulgarisant, non, on va pas vulgariser. Je crois que tout est important. Je crois qu'on rebondit sur plein de choses. Alors déjà, on leur rappelle que qu'est-ce qui est fondamental dans une rencontre, c'est le consentement. Hein, déjà, le consentement mutuel, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de rencontre amoureuse sans que, non, justement, les deux partenaires le désirent. Et c'est là qu'on rentre dans beaucoup d'autres débats. C'est-à-dire quelles seraient les situations qui pourraient engendrer qu'il n'y ait pas un consentement à deux. Et là, ça ouvre évidemment à mon domaine à moi, c'est-à-dire quand on consomme ou quand on est dans des situations où on n'est pas complètement alerte. qu'est-ce qui peut se passer
dans la rencontre amoureuse. Lola, par exemple, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ça?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la présentation parce que c'était vraiment bien présenté. Le diaporama avec les stylos et tout ça, ça a été...
Diaporama et stylos.
Tu peux dire ce que...
En fait, c'est un diaporama et c'était des stylos différents ou pas, en fait.
Oui, ça représente quoi?
Ça représentait...
Ben c'est, en fait, c'est le sexe expliqué aux enfants. Voilà. Et tu as un stylo bleu qui représente le sexe mâle et un stylo rouge qui représente le sexe féminin.
Oui, mais là, c'est pas un enfant, Lola.
Oui, mais c'est justement ludique. Enfin, c'est ce que tu veux dire, Lola.
C'était bien présenté parce que moi, il y a tout le monde qui a vraiment compris.
Enfin, d'accord.
Et puis, on aborde comme ça toutes les sexualités. Les, oui, permises, les permises et les non-permises.
Ah, d'accord. Ouais.
Voilà. Ça permet de débattre. Ça permet,
voilà, de parler de quelles sont possibles, quelles sont pas possibles, qu'est-ce qui est de l'ordre du plaisir, qu'est-ce qui est de l'ordre de la société, des dictats de la société. Mmh. Et donc d'aborder, entre autres, comme Caroline l'a dit, la rencontre. On a parlé tout à l'heure du respect avec la princesse, c'est abordé, bien entendu. Hein, dans le consentement des deux, bah, c'est respecter l'autre, hein, dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il peut faire à ce moment-là.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Yeah. Avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Oui, bonsoir les amis, retour au studio de Radio Monaco, bien sûr, avec Caroline Sanmori-Pécou. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Psy au lycée technique et hôtelier de Monaco. On a Lola et Vincent qui sont avec nous aussi. Caroline, est-ce que vous les avez sentis à l'aise avec leur sexualité ou il y a encore des tabous, beaucoup de tabous
Alors cette année, avec Hervé, nous avons senti des jeunes particulièrement libérés au niveau de leur discours. On a eu beaucoup d'échanges, au point où notre diaporama, on n'en a fait qu'un quart. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à aboutir à la fin du diaporama, tellement il y a eu d'interactions entre eux et nous. Alors je pense que c'est lié aussi au fait que nous-mêmes, on est peut-être plus à l'aise, et puis on leur laisse de plus en plus de place. En tout cas, ça a été très interactif et c'était passionnant de notre côté. Après, à eux de nous dire comment ils ont ressenti ces rencontres, mais nous, ça a été très intéressant.
Bon, Vincent, toi, ça t'a libéré, tu as appris des choses, tu es plus à l'aise après?
Bah, étant donné que dans le cadre du CESC et des Anges Gardiens de Monaco,
oui,
on parle beaucoup de ça entre nous et on est informés là-dessus, je pense que Lola et moi, on n'a pas trop appris de choses. Après, c'est vrai que ça reste très intéressant. Étant donné qu'on était en groupe restreint, il y avait deux classes seulement.
Et justement, ça va pas être évident de parler de ta sexualité devant les filles, Vincent.
Bah, on se connaît tous, donc après. Bah... Non, mais enfin, pas. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a moins peur du regard des autres quand on les connaît.
Ouais.
Donc, c'est plus simple de parler.
Malheur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne les interroge pas individuellement. Donc, ils ne parlent pas spécifiquement de leur propre sexualité, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. On parle sur un plan général et après, ils échangent. Puisque toi, tu dis que vous n'avez pas forcément appris parce que vous êtes des anges gardiens et que vous êtes au fait même de l'information, est-ce que vos copains ou copines, après, qu'est-ce qu'ils ont pu vous en dire, eux qui ne connaissent pas comme vous les questions liées au VIH ou à la sexualité?
Je pense que beaucoup d'élèves en ont appris, ont appris des choses parce que lorsque des camarades de classe à moi et à Lola sortaient de ces réunions, ils venaient, ils nous parlaient, ils nous disaient, ouais, vous verrez, c'est cool, enfin, on a appris plein de choses, c'était super intéressant. Et le ressenti même de ma classe quand nous l'avons fait était le même.
Est-ce que ça a provoqué des échanges entre vous sur ces questions après les interventions?
Oui. Pendant un court temps, oui, mais après on est passé à autre chose.
Mais c'est déjà bien.
Et est-ce que ces séances, pour nous médecins, permettent d'essayer de comprendre pourquoi 30% des jeunes à l'heure actuelle n'utilisent pas de préservatif systématiquement et pourquoi 50% des jeunes, à un moment donné de leur vie sexuelle, n'utilisent pas de préservatif? Est-ce qu'il y a une explication à votre niveau, par rapport à vous, par rapport à vos copains, par rapport à tout ça? Pourquoi cet échec de prévention?
C'est pas les jeunes de Monaco.
Oui, alors c'est toujours les autres. Mais pourquoi depuis 30 ans on n'arrive pas à imposer le préservatif lors de la mise en place de sa vie sexuelle? Quelle est la signification?
Je pense que c'est parce que on n'en a pas forcément un sous la main au moment, parce qu'on n'a pas prévu de le faire ou quoi. Et si on l'a pas sous la main, on n'a peut-être pas forcément envie d'aller à la pharmacie, le prendre, revenir.
Vous n'en avez pas sur vous, là? Personne en a?
Non.
Non. Caroline,
alors j'en ai pas sur moi, non.
Non.
Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je crois que ce qu'on a ressenti qui émergeait de ces rencontres, c'est aussi que beaucoup de jeunes débutent la sexualité avec une forme d'anxiété, de stress. Donc ça peut expliquer malheureusement certaines consommations, puisque certains d'entre eux ont dit, nous, de toutes les façons, il faut qu'on boive pour sortir, il faut qu'on boive pour rencontrer, il faut qu'on boive pour avoir une première relation ou des relations amoureuses. Et c'est là qu'on peut...
désinhiber.
Oui.
Et quand même, la fête est synonyme de boisson.
Beaucoup d'entre eux considèrent que c'est normal de passer par ces états-là pour pouvoir affronter la rencontre à l'autre. Et c'est ça qui nous pose un problème et qui peut rejoindre cette question du pourquoi, tout en sachant que le préservatif devrait être dans leur esprit, pourquoi finalement ils ne l'utilisent pas ? Parce que je pense que le savoir et les connaissances, ils les ont. Je pense qu'ils n'apprennent pas vraiment plus sur le préservatif lors de ces rencontres, mais on essaie peut-être de les responsabiliser d'abord et avant tout sur certains comportements, sur la représentation qu'ils peuvent avoir de la relation, parce qu'on travaille plus, je pense, aujourd'hui sur ça. Parce que pour en revenir à la connaissance, tu dis que tu sais beaucoup de choses, mais je pense que beaucoup de jeunes de votre âge ont beaucoup de connaissances autour de ça. La question, c'est entre la connaissance et l'utilisation, qu'est-ce qui se passe ?
Et beaucoup vont sur des sites, sur Internet, le soir, 40% des jeunes sont sur Internet, souvent sur des sites porno.
Oui, le pourcentage est
bien. On en a souvent parlé ici.
On aborde la pornographie dans ces rencontres.
Vous l'avez fait, là ?
Oui, systématiquement. Et la pornographie est pour moi aussi un thème que je tiens particulièrement à cœur, c'est les violences dans les premières relations amoureuses. Violences, pas toujours physiques, ça peut être des violences psychologiques. C'est un thème délicat, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir l'aborder avec des jeunes.
C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Altesse, du chantage affectif.
Bah oui, et puis l'étiquette qu'on colle sur le dos d'une jeune fille, parce que justement elle a un préservatif dans son sac, elle sort le samedi soir, de suite c'est une traînée, quoi. Et c'est une mariée, couche-toi là, alors que c'est juste une fille responsable. Qui prend sa vie en main et comme je disais tout à l'heure, je veux dire, bon, là, malheureusement les garçons sont pas toujours très très intelligents et très habiles.
Vincent, merci.
Non, mais pas tous, mais un garçon, parce qu'il ne veut pas mettre de préservatif, il va faire un chantage affectif à sa copine, parce qu'il sait qu'elle est amoureuse. Il va dire, écoute, voilà, je t'aime que toi, alors que peut-être c'est le dernier des salauds qu'il va voir ailleurs. Mais bon, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à pas faire. Je veux dire, c'est contre l'amour. Je veux dire, l'amour, ça se partage. C'est quelque chose qu'on fait à deux. On peut pas imposer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas forcément envie, quoi. Donc, et c'est vrai que ça doit arriver souvent, mais voilà, si tu veux pas avoir de rapport non protégé, je te quitte et puis je vais en voir une autre qui voudra bien. Et c'est cette pression qu'on met sur les jeunes filles, c'est dommage. Je veux dire, alors on parle d'égalité des sexes tout le temps en ce moment, que les femmes sont égales aux hommes, mais alors pourquoi c'est bien, on félicite un garçon s'il a un préservatif dans sa poche et une fille on la condamne? Non, je comprends pas.
Alors après nos interventions, tout le monde part avec préservatif.
Oui, mais je veux dire, la société. Mais c'est vrai que la société va regarder, montrer du doigt une fille, la juger, la montrer du doigt et lui faire une réputation horrible parce que elle a des préservatifs dans son sac. Mais un garçon on va lui taper dans le dos. Donc je trouve ça.
Ouais.
On parle d'égalité des sexes maintenant à l'école partout et c'est pas normal.
J'ai une question à Néophyte. Est-ce que c'est justement pas le manque d'amour lors de ces premiers rapports sexuels qui fait que les rapports sont non protégés? Parce que théoriquement, si on démarre une relation amoureuse, on a envie de protéger l'autre. On a envie, d'abord on se sent plus à l'aise, et ensuite peut-être, non, je ne sais pas, c'est une question de néophyte.
C'est un peu rapide l'amour.
Je ne suis pas sûr, parce que justement, l'amour, on a l'impression qu'on est protégé. Et certains jeunes disent, je l'aime, donc rien ne peut m'arriver.
Oui, mais il y a beaucoup de premiers rapports aussi qui sont loin, loin, loin de l'amour.
Ah, tout à fait.
Très très loin.
Et la plupart.
Mais l'amour ne protège pas non plus.
La plupart des premiers rapports, il n'y a pas d'amour du tout.
Ça peut être une expérimentation, tout à fait.
Voilà, c'est juste pour faire comme les autres, je ne vais pas être la dernière de la classe à ne pas avoir fait.
Alors ce que disent la plupart des garçons et des lycéens, justement, sur la capote, c'est qu'ils disent ça tue le plaisir. Ça gâche le plaisir, ça touche à ma virilité en plus, parce que certains ont peur de perdre leur érection, c'est ce qu'ils disent.
Oui, tout à fait, mais ce sont des excuses pour ne pas les utiliser.
Parce que, qu'est-ce qu'ils connaissent à leur âge du plaisir, ça gâche mon plaisir, ils n'en ont pas eu
l'expérience autant que ça. Et la virilité.
Et la virilité, je veux dire, ça va. Ils ont trois poils sur le menton et ils parlent de virilité. C'est marrant.
Je crois que c'est surtout lié à la peur, la peur d'être en face de l'autre. Et là, c'est plus un autre virtuel. Là, c'est un autre réel.
C'est la peur, c'est ça.
C'est ça, je crois que tout le monde se cache derrière ces écrans. Ils se permettent de se dire des choses, aussi bien des insultes, aussi bien des mots d'amour derrière leur écran de téléphone ou leur écran d'ordinateur. L'alcool, c'est un écran de plus dans leur vie.
Et souvent, quand on a bu...
Ils sont plus eux-mêmes, on les voit plus, ils boivent, et alors à ce moment-là, ils parlent, et puis ils se permettent de faire des choses, et plein de choses. On est devenu une société, et ces pauvres jeunes, tout doit aller tellement vite. Ils prennent pas le temps de se connaître, de se parler, tout doit aller trop vite parce que en un clic ils ont accès à trop de choses auxquelles ils ne sont pas préparés en fait.
Et Princesse Stéphanie, auprès de ces jeunes, est-ce qu'on parle aussi du mensonge? Parce que souvent, voilà, une des questions qui peut revenir, Caroline, c'est moi je l'ai jamais fait donc je peux pas l'avoir.
Alors, on présente peut-être pas ça comme ça. On parle du nombre de conquêtes aussi. On se dit, on propose de réfléchir, on propose à nos jeunes de réfléchir sur est-ce que c'est parce qu'on a plus de conquêtes qu'on est plus performant ou qu'on est, on connaît mieux l'autre ou qu'on est finalement plus à l'aise avec sa sexualité. On part plutôt des fausses croyances.
Beaucoup de garçons se glorifient pour avoir plein de conquêtes, auprès de leurs potes.
Oui, mais que signifie conquête ? Est-ce qu'on apprend réellement de l'autre
dans des conquêtes ? Non, c'est juste un soir, quoi.
Voilà, là aussi c'est symptomatique de quelque chose.
Je voulais juste te dire par rapport à la question de Bruno tout à l'heure sur l'utilisation du préservatif, je pense que la difficulté que l'on a, et avec les jeunes d'ici aussi, c'est cette prise de conscience. En plus à Monaco, on a la chance d'être dans un milieu un peu protégé, où la vie est quand même belle et certaines fois plus facile. Donc, j'ai dit certaines
fois. Stéphanie n'est pas d'accord.
Non, au niveau psychologique, je pense que Karine sera d'accord avec moi. Psychologiquement, Monaco est beaucoup plus difficile pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup plus de pression sur eux, de pression sociale, c'est-à-dire qu'il faut être bien vu, c'est beaucoup plus lourd pour eux ici que dans une autre ville.
Certainement, mais en tout cas, on rejoint cette difficulté de prise de conscience que le VIH, ils n'en sont pas plus protégés que les autres. Et que la non-utilisation du préservatif, c'est des fois qu'ils se disent, le VIH, c'est pas ici.
Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Merci de vous asseoir, merci tout le monde, c'était le bel jour, on était parti.
Non, il faut laisser la place à Élodie.
Oui, il faut laisser la place à Élodie. Alors attention les amis, Élodie va venir dans quelques instants. Après, ouais. Ouais. Après. Salut, bonjour. Comment tu t'appelles ? On est en direct à l'antenne. Élodie, ça va bien ? Content de vous avoir. Est-ce qu'on peut écouter un peu la pub, cher ami ?
Élodie, elle est quand même un peu stressée depuis ce matin.
Bah oui, je sais qu'elle est passée.
Elle n'a pas l'habitude. Elle a peur de malheur. Tu l'inquiètes ?
Non, c'est pas vrai.
C'est ça qu'elle a peur de malheur, on le comprend.
On écoute la promo pour One Kiss One Fight, les amis.
OneKissOneFight.com one-kiss-one-fight.com.
Voilà, c'est une toute nouvelle campagne anti-discrimination contre les personnes touchées par le VIH. Je sais que la discrimination, chère Stéphanie, ça vous touche beaucoup et le combat est loin d'être terminé. Hein.
Oula.
Ouais, tout est dit.
Voilà, c'est loin d'être gagné. Comme on disait tout à l'heure, je dirais,
ça s'arrange
en 30 ans, il y a des avancées au niveau médical impressionnantes. Mais au niveau de la discrimination, ça n'impressionne pas du tout.
Pas du tout.
Dans le mauvais sens, mais bon. On est là, on va se battre, c'est pas de problème.
Donc elle n'est pas toute nouvelle.
Salut Élodie.
Bonjour.
Il faut faire changer les mentalités avec le... On est là avec vous, hein. One kiss, one fight, un baiser, un combat. Élodie, comment t'as trouvé ça au départ ?
Très bien, en plus c'est vrai que c'est... Pour changer des campagnes dont on a l'habitude, c'est vrai que c'est une campagne participative, donc qui implique le public n'est pas passif, et c'est vrai que quelqu'un qui va passer devant une affiche ou qui peut-être nous entend ce soir va se sentir concerné et va vouloir participer et du coup être acteur à part entière de cette campagne.
Comme tu l'as fait, Malher, c'est-à-dire
bien sûr
faire son propre selfie.
Mais l'importance des réseaux sociaux était très importante.
Peut-être ça donne aux gens à réfléchir. Est-ce que j'ai eu un comportement discriminatoire vis-à-vis de quelqu'un ? Comment je réagirais ? Enfin, je veux dire, les personnes du grand public, comment je réagirais si... mon frère, ma sœur, mon ami m'annonçaient ça, c'est en positivité. Je pense que c'est bien d'avoir des campagnes comme ça qui touchent le plus de monde possible, parce que justement, ça donne à réfléchir et à se poser les bonnes questions.
Élodie, comment tu fais ? Donc, tu prends ton smartphone.
Ah oui, voilà, là, pour le coup, c'est très simple.
C'est facile. Hein.
Voilà, c'est prendre, alors faire ou un selfie vidéo avec son smartphone, donc se filmer, et juste qu'il faut qu'il y ait One Kiss One Fight dans la vidéo. Et après aussi, on a élargi au selfie photo pour que ce soit un peu plus accessible. Si les gens n'ont pas forcément envie de se filmer ou parler, ils peuvent juste se prendre en photo avec une pancarte One Kiss One Fight ou voilà, juste que ce soit identifiable à la.
D'accord.
Non, mais là, on a élargi effectivement avec les photos, parce que ce que l'on se rend compte, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, si le selfie vidéo de la princesse est vu par des dizaines de milliers de personnes.
100 000 personnes.
Oui, on n'a pas. Stéphanie.
Depuis
10
minutes, ça
a demandé 30 000. Il y a eu plus de 30 000. Ah non, mais ça n'arrête pas.
On se rend compte qu'on décolle quand même un petit peu difficilement sur les selfies vidéo. C'est-à-dire qu'il faut que les gens le fassent. et c'est pas forcément évident. Donc,
maintenant, c'est peut-être pas assez relayé dans la presse, dans les radios, dans la télé.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien comme Radio Monaco. Donc,
on est là.
Remercions Radio Monaco pour les messages que l'on a entendus tout à l'heure et que vous allez diffuser pendant un certain temps.
Oui.
Et puis aussi
les selfies qu'on a reçus et on va en recevoir. On a reçu donc le vote, celui de Christophe Lory, et on en attend encore d'autres.
Bon, ben voilà, c'est efficace, c'est rigolo, c'est sympa. Puis...
c'est ce que l'on recherche, justement. C'est sympa, ils ont fait un truc très original, les jeunes. On en a des jeunes là qui vont en parler, non ?
Alors, Vincent, il y a Vincent qui est là avec.
Marvin.
Salut Marvin.
Bonjour.
Pourquoi êtes-vous là, jeune garçon ?
Eh bien, parce qu'en fait, à la base, le SAV.
Oui.
Le SAV des anges gardiens, c'est une idée qu'on a eue avec Zaza.
D'accord.
C'est-à-dire que par le biais des tests in the city, des courtes pointes, on a été sensibilisés avec les anges gardiens. Et moi, j'ai été amené à faire un stage chez Zaza par rapport aux études. Et c'est tombé vraiment pile dans cet endroit-là. Donc avec les anges gardiens, on en a parlé. Et comme je fais un peu de théâtre et que j'aime bien rigoler.
Oui.
Parce que c'est quand même un thème assez lourd. On a voulu faire un truc un peu léger.
D'accord.
Et on a lancé cette histoire de One Kiss, One Fight, SAV.
C'est une idée géniale. Bah, je trouvais ça génial.
Merci beaucoup.
C'est super. Voilà.
Et en plus, pour en faire plein avec ça.
Oui, voilà, pour en faire plein. Vous pouvez continuer.
Ah, oui.
Et peut-être inviter d'autres élèves à faire le SAV.
Oui, on a essayé.
Prof, ça serait rigolo.
Bah, on a essayé, mais c'est vrai qu'il y a des élèves, ils sont un peu pudiques, ils aiment pas trop. C'était le souci de tout à l'heure. Ils sont un peu pudiques, ils aiment pas trop se faire filmer. On a essayé, pourtant on met des déguisements, on écrit le texte avec Zaza, on écrit le texte pour qu'il soit vraiment à l'aise. Mmh. Et c'est vrai qu'il y en a qui se prêtent au jeu, il y en a un peu moins, mais ça
Marvin, fait plaisir. Marvin, il est super à l'aise. Lui, il va faire de la télé ou là, je sais pas s'il va faire, du spectacle plus tard, lui, hein, Marvin. Merci. Ça sert le théâtre, non ?
Oui.
T'es plus à l'aise ?
Beaucoup.
Élodie, on n'a pas rappelé, on les envoie où les selfies sur ?
Sur onekissonefight.com.
C'est
voilà,
ça.
Il y a tout, ils remplissent le formulaire, ils l'envoient, on le reçoit et après on les publie sur la chaîne YouTube et sur Facebook des fois.
Oui, et donc nous avons le soutien donc de Radio Monaco, comme on vient d'entendre.
Il y a intérêt.
Mais nous avons eu déjà aussi, c'est intéressant d'avoir des organismes qui nous soutiennent. Il y a des personnes, les individuels, mais on a eu la Croix-Rouge Monégasque, les Ballets de Monte-Carlo, on a Monaco Info.
Oui, et les Carabiniers aussi du Prince qui ont fait leur selfie.
Un très beau selfie aussi.
Ouais. Ça c'est local, mais maintenant il faut monter à Paris, quoi. Il faut en parler dans les radios ou dans les télés là-bas.
Mais nous avons aussi des personnes célèbres.
Oui, voilà. Dernièrement, il y a eu Morane, Yannick Noah.
Ouais.
On a eu Elise Moon, Isabelle Mercier qui est de Monaco aussi.
D'accord.
Pour Malher, il y a eu Roland McDan aussi. Et puis qui
des jeunes, quoi. Aussi, ça pas l'autre.
Et, ce soir,
Stéphanie, il faut monter à Paris et faire de la pub dans une émission de télé. Non, je me sens.
Oui.
Non, ne choisissez pas trop notre présidente. On a ce soir une sortie
et
spécifique.
Et oui, ce soir, il y a le selfie vidéo de Bob Sinclair.
Bob Sinclair.
Tu connais ?
Oui, on a fait des émissions avec lui, Sinclair.
Donc,
bon, gueule, tout.
Quand tu as des invités sur ton plateau, tu peux leur proposer de faire un selfie.
On va le faire. On va le faire. Oui. Ok, les amis, vous aviez un selfie à faire, non ?
Oui,
j'ai entendu dire que vous avez un petit selfie spécial pour la princesse Stéphanie. On y va, c'est parti. Voilà. Attention.
Service après-vente des anges gardiens, bonsoir. Je vous appelle parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une personne qui est contre les discriminations des personnes atteintes du sida.
Ah bon ? Qui ça ? Je vois pas du tout.
Vous savez pas qui c'est ?
Ah non.
La princesse Stéphanie de Monaco, voyons.
Ah bon, vous êtes sûr ?
Certain.
Ah. Bon bah, dans ce cas, one kiss, one fight, et...
joyeux anniversaire.
Et ben voilà. Donc là, il y a Stéphanie, il y a un beau gâteau au chocolat qui arrive, et puis Monsieur Ferrero qui n'est plus de ce monde. Merci Catherine.
Merci. C'est un anniversaire qui dure.
Et ben voilà. Ouais. Ben on s'est dit, on va lui souhaiter son anniversaire. On est un peu en retard, mais on s'est dit, comme elle a fait la couverture, magnifique photo, à la couverture de match avec votre fille Pauline. Stéphanie.
C'était Pauline. Et j'ai Camille aussi, ce point de vue.
Et puis Colin et tout ça, c'était bien. Ouais. Bon anniversaire,
merci
Stéphanie.
Beaucoup, merci.
On est très. Ah, puis tiens, une jeune fille arrive avec un petit billet. Que se passe-t-il ?
Voilà, vous avez trop de choses. Vous voulez me donner les paquets ? Christine n'est pas là.
Voilà, Christine. Eh bien, Christine, on salue Christine Barca.
On fait des bises à Christine.
Alors là, c'est quoi ? C'est.
Oh, c'est une jolie carte.
C'est joli ?
Attention, il y a des bougies, Altesse.
Il y a des bougies, ouais. Il ne faut pas mettre le feu, on est très mal assuré. Voilà, bon anniversaire, Stéphanie.
Joyeux anniversaire.
Merci tout le monde, les amis. Merci d'être venus pour cette belle émission. Merci Fighted, merci Hervé, merci Franck.
Merci Radio.
Salut Elodie, salut les gamins de, et les filles du lycée technique hôtelier. Et le Bruno Taillon, oh, je vais le réveiller. Ça va Bruno?
Salut Malher.
Salut mon Bruno, merci pour tout. Et puis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Jungle Fight. Ciao ciao tout le
ciao,
monde.
Merci, ciao, ciao.
Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.